RCF.
RCF donne la parole aux associations locales et aux ONG. Et c'est dans Solid'Aid.
On était beaucoup dans les salles ce matin. Il y aura encore du monde cet après-midi. Il y a une parade des lanternes le soir. Et il y aura au moins 400 personnes parce que des gens ont fabriqué des lanternes un peu partout. Et en même temps, il y a une action à Bruxelles. Il y a des actions un peu partout en Flandre. Il y a des actions en communauté germanophone. Il y a des localités en Wallonie où des gens se mobilisent chez eux. Donc aujourd'hui, en fait, nous sommes des milliers en Belgique à dire... Ça suffit. On peut applaudir, ça. Nous sommes des milliers, véritablement des milliers. Et de plus en plus, ce ne sont plus seulement les gens qui subissent la pauvreté qui se réunissent. Il y en a beaucoup d'autres qui les rejoignent. Ce n'est pas seulement l'affaire des pauvres, c'est l'affaire de tout le monde. Les richesses financières, les richesses du patrimoine, du logement, de l'école... de l'accès à la culture, etc., c'est toutes ces richesses-là qui doivent être réparties de façon juste et équitable. Il est anormal, anormal aujourd'hui que l'école ne soit pas gratuite. Il est anormal aujourd'hui qu'il n'y ait pas de logement payable et de qualité pour tout le monde. Il est anormal aujourd'hui que lorsqu'on prend un emploi, il n'offre pas un salaire décent ou qu'il mette dans des conditions dégradantes. Il est anormal aujourd'hui que les jeunes soient taxés éventuellement de fainéants parce qu'ils ne veulent pas obéir à un système qui veut les faire rentrer dans des places qui ne leur conviendraient pas. Donc tout ça ne va pas. Alors on est là pour le dénoncer. Et pour le dénoncer aujourd'hui, suite à cette manifestation, on va donner la parole à Geneviève, et puis à Olivier, et puis à Françoise. Chacun d'entre eux a écrit un texte en rapport avec notre slogan « La violence par l'appauvrissement doit cesser, la réduction des inégalités doit s'imposer ».
Je dénonce les violences multiples faites aux personnes dans leurs difficultés diverses. J'accuse l'État de ne pas se comporter comme un bon père de famille, comme il devrait être de son devoir. Et ça fait mal. Je trouve inacceptable de la part des institutions de demander aux plus démunis de devoir toujours se justifier de ne rien avoir. Exemple, les CPS, où ils te demandent des extraits de compte, que cela dit en passant est interdit, mais également des tickets de caisse prouvant que tu ne t'offres pas une petite goutte d'alcool. Ça fait mauvais genre dans les rapports de demande de revenus d'intégration. Et ça fait mal. J'accuse l'État d'une incapacité totale à l'indulgence envers les erreurs humaines que la population peut commettre. Rentrer une déclaration un jour trop tard et perdre les bourses d'études de tes enfants dont tu as vraiment besoin pour le budget de l'année, ça fait mal. J'accuse l'ESSA de soumettre son peuple à vivre en dessous du seuil d'existence auquel il a droit. Ce que l'État nous octroie en tant que sans emploi est en dessous du seuil de la pauvreté. Et ça fait mal. J'accuse l'État de mettre les populations hors de chez elles sans solution de se retrouver un autre hébergement. Ils mettent les personnes hors de leur caravane, de leur logement, sans solution concrète pour se reloger.
Ça fait mal.
J'accuse l'État de mettre en danger la santé mentale des populations les plus précaires. Les multiples démarches administratives, les refus réguliers de demandes d'aide sociale rendent les gens complètement dingues. Et ça fait mal. J'accuse l'État d'ignorer l'importance de la justice, surtout pour les plus faibles. Les personnes ne savent pas ou n'osent plus demander leurs droits en justice, car cela coûte trop cher en argent, mais aussi en énergie, déjà dépensée lors du combat pour les obtenir, ces foutus droits. Et ça fait mal. J'accuse l'État d'ignorer, voire exclure les plus faibles d'entre nous. Il interdit la mendicité, il éloigne les sans-abri des centres-villes, place des systèmes anti-SDF partout où il est viable pour eux de s'installer. Et ça fait mal. J'accuse l'État de mettre en place des lois de plus en plus discriminatoires envers les personnes les plus défavorisées. Tu perds ton chômage car ta vie est instable par manque de moyens financiers. Tu jongles entre colis alimentaires et formation bidon et tu te retrouves sur un carton. Et ça fait mal. L'État fait violence envers son peuple. L'État se fait violence envers lui-même. À nous, dans nos combats, de rétablir les forces. À nous, dans nos combats, à créer des liens de confiance. À chacun d'entre nous aura son mot à dire où nous n'aurons plus peur de dire stop à cette violence institutionnelle qui nous grignote chaque jour. On dit stop au sparadrap sur les jambes de bois. Exigeons de réelles mesures contre l'appauvrissement des populations. Crions haut et fort nos douleurs. Nous ne voulons plus souffrir. Nous ne voulons plus avoir mal. Crions haut et fort notre colère. Nous voulons un engagement ferme de l'État de s'engager sur le chemin de la réduction des inégalités, de l'élimination de la pauvreté. Merci.
Bonjour à tous, ça va ? Y'a basta. Je vais vous raconter une petite histoire. Ce matin, Jacques se lève. Il a passé une nuit infernale. Depuis plus de 3 ans, il ne s'en sort plus. Entre les factures et les soins de la petite Julie, sa fille, il ne voit pas le but du tunnel. Hier encore, l'huissier est passé chez lui pour saisir les meubles. Encore une facture d'hôpital impayée. Il est vrai que depuis sa femme est décédée, Jacques est vidé. Sa dépression ne veut pas partir. Cette nuit, il s'en est voulu. Dans ses pensées, sa femme l'a laissé tomber. Aussi, depuis sa dépression, il ne peut plus compter sur personne. L'entourage est parti. Il est seul. Jacques se lève et va se faire un café. Mais non, pas possible. Plus d'élec. Ce foutu compteur à budget qu'il faut recharger. Et malgré que nous soyons le 6 du mois, il n'y a plus rien jusqu'à la fin du mois. Quelle pression, quel poids. Serait-il possible de retrouver ces jours heureux ? Bon, maintenant, il faut réveiller la petite. Essayer de lui offrir un petit déjeuner digne de ce nom. Malheureusement, il est obligé d'aller au colis alimentaire. Ça lui permet de se soulager un peu. Heureusement, parce que c'est difficile à demander. Quand il arrive, ce matin-là, dans la minuscule chambre, de son appartement, une chambre, eh oui, il dort dans le salon. Donc, quand il arrive dans cette chambre, Julie dort encore. En la réveillant, il se rend bien compte que quelque chose ne va pas. Julie est malade. Encore un jour de manqué. L'école l'a bien prévenu. Encore un jour sans certificat et c'est le SAJ. Il ne manquerait plus qu'on lui enlève la petite. Si cela arrivait, ce serait la fin. Quoi faire ? S'il fait venir le docteur, il ne pourra pas payer le loyer. S'il paye le loyer, pas de médecin. C'est trop dur cette fois. Il décide d'aller voir le CPS. Mais il ne veut pas profiter. Il n'est pas comme les parasites. Mais il se dit peut-être que les autres sont dans la même situation que lui. Le CPS se trouve à 4 km. Tu habites à la campagne, tu dois avoir de bonnes jambes. Hein. Il couvre la petite et la laisse seule pour se rendre au village d'à côté où se trouve le CPS. 4 km aller, 4 km retour. Plus l'attente là-bas, il sait qu'il en a pour une grosse partie de la journée. Il faut rentrer pour la petite surtout. Jacques arriva devant la porte du CPS trempé. Il pleut, mais ce n'est rien, il y a Julie. Jacques prend en main la poignée de la porte et un sentiment de honte commence à l'envahir. Mais ce n'est rien, il y a Julie. Arrivé devant l'accueil, Jacques expose son cas. Il est anxieux, il tremble, il bafouille. Après avoir écouté d'une oreille distraite, l'employé lui dit « Vous avez rendez-vous dans 2 semaines ». Jacques est effondré. Il sait qu'il ne tiendra pas jusque-là. Il insiste, mais l'employé reste sur ses positions et commence à crier sur Jacques. Pris d'une furie digne d'un parent auquel on fait du mal à son enfant, arrache l'écran du bureau et le fait voler à travers la pièce. Le lendemain, la presse titrait « Violence au CPS. Un usager lance un ordinateur à la tête d'un employé. Violence !»
Je marche seul dans la rue, je trébuche, je me relève et je vois qu'on m'ignore. Le temps s'arrête. tête sous ma peau, les blessures ont mal être. Il fait si froid dehors. Peu à peu, je perds la lueur et l'espoir que j'avais dans les yeux. Et l'ignorance de mes frères de vie me fait mal. Je m'en remets à Dieu. Seul dans ce monde où le temps passe, il est comme les gens, égoïste et malheureux. Et je perds espoir dans cette vie où tout va mal. Et je tends la main, mais personne ne la veut. La 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 la.
Ah putain, c'est toi aussi qui suis là.
Je n'ai plus de mère, plus de père, l'amour m'a oublié. Les souvenirs, les beaux jours ne sont que du passé. Et j'espère me repère, me résoudre moi leur temps de la main. Ils ne voient pas, ne comprennent pas. Dois-je leur dire qu'un jour j'étais comme eux? Seul dans ce monde où le temps passe, il est un méchant, égoïste et malheureux. Et je perds espoir dans cette vie où tout va mal. Et je tends la main, mais personne ne la veut. La 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 la. Il est comme les gens, égoïste et malheureux. Et je perds espoir dans cette vie où tout va mal. Et je tends la main, mais personne ne la veut. Mais seul dans ce monde où le temps passe, il est comme les gens, égoïste et malheureux. Et je perds espoir dans cette vie où tout va mal. Et je tends la main, mais personne ne la veut.
Ah oh, merci, c'est gentil, merci, c'est cool.
C'est pas grand chose, mais bon.
C'est cool, non, merci, voilà. C'est cool, c'est super cool de ta part.
J'ai été SDF pendant 5 ans. En tout cas, je te souhaite bon courage,
merci,
frérot.
C'est super gentil. Merci. Merci, c'est gentil. Merci pour ta part. Merci, à bientôt.
Le temps a-t-il le même sens pour tous? Certains sont dépossédés de leur temps. Par les difficultés, la longueur du chemin ne sera pas perçue de la même façon. Selon notre condition, il semble que nous ne soyons pas égaux face au temps. Violence, de l'inscription à la crèche qui doit être réalisée si possible, et la conception si on veut que l'enfant puisse y entrer dans les temps. Sinon, ce sera la course pour trouver une personne de confiance pour garder bébé, et à quel prix? Violence, des listes d'attente dans les écoles dont les parents rêvent pour préparer l'avenir de leurs enfants. Premier choix, deuxième choix, tous ne sont pas égaux face à l'école. Et certains ne seront fixés qu'à la veille de la rentrée. Violence de l'attente de l'obtention de la bourse d'études, qui, si tout va bien et que vous avez rempli les documents dans les temps sur le site parfois accessible de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous servira à payer les classes de neige de l'année suivante. Violence de l'attente du train ou du bus pour se rendre au cours, au travail, et là c'est le parcours du combattant longue durée. Patience. Violence de l'attente dans la recherche d'emploi. Le stage d'attente s'est transformé en allocation d'insertion, à condition que vous n'attendiez pas trop longtemps pour quitter l'école. Si vous avez attendu trop longtemps, il vous restera la violence de la demande de revenus d'intégration au CPS, où vous saurez vraiment dans certaines communes ce que patience veut dire. Des délais pour un rendez-vous aux délais de réponse, vous aurez tout loisir de vous retrouver à la rue ou de mourir de faim. Et tout ça sans parler de l'attente, de l'intrusion contrôlante, de la visite domiciliaire. Si la chance vous sourit, vous décrocherez un contrat de travail pour lequel vous aurez assez de compétences en attendant d'avoir de l'expérience. Mais quel contrat? Article 60, CDD, intérim, pour combien de temps? Quel espoir de pouvoir acheter une maison, faire un crédit pour une voiture et être sûr de pouvoir les rembourser? Donc il faudra louer, mais jusqu'à quand? La seule chose que vous attendrez longtemps, mais sans vraiment l'attendre vu les délais, c'est la pension. Vous l'aurez si tout va bien aux alentours des 67 ans, mais avec quel revenu et dans quel état de santé? La santé, parlons-en. Dans quel délai aurez-vous rendez-vous chez le médecin? Combien de temps devrez-vous économiser pour financer cette consultation? Et vos frais pharmaceutiques, à combien vont-ils se monter? Violence de l'attente dans les administrations quand, pour obtenir un droit, vous devez rentrer 4 ou 5 formulaires obtenus après 2 heures de file chacun et qu'en final vous serez hors délai. De quoi devenir fou ces attentes répétées? Et quand à votre tour vous risquerez à devenir violent, vous serez jugé sans aucune clémence et sans aucune circonstance atténuante. Or, la violence est rarement uniquement dans un sens. Et celui qui la subit, s'il veut garder la tête droite, n'aura d'autre choix que de riposter.
C'est Christine. Ouais, je vais commencer par vous féliciter, comme tous les autres gens qui l'ont déjà fait ici. Vous êtes vraiment nombreux, vous êtes jeunes, vous êtes mobilisés contre la pauvreté. Et ça, franchement, ça fait plaisir à voir. Alors, c'est un secret de polichinelle, mais je me dois d'être honnête avec vous. Cette année académique sera une année d'élection. Alors, dans ce contexte, je pense qu'il est important de se rappeler ce que nous racontait dans son temps Noam Chomsky, qui expliquait que si on ne contribue pas à une culture démocratique vivante, permanente, capable de faire pression sur les candidats, ils ne feront pas ce pour quoi on les a élus. Mettre un bout de papier dans une urne et rentrer chez soi, ça ne va rien changer, les amis. Alors, conscient de cet état de fait, partout dans le monde, des voix s'élèvent. Des corps se lèvent et se mettent en mouvement. La révolte est dans le fond de l'air. Ces voix réclament un monde plus juste, un monde plus égalitaire, un monde plus agréable à vivre, tout simplement. Alors quoi de plus normal? Ces 30 dernières années, l'appareil néolibéral n'a cessé de progresser, broyant et écrasant toujours plus les personnes qui vivent sous son joug. Partout dans le monde, les gouvernements, sous les conseils des grandes organisations internationales, s'attaquent avec vigueur et fermeté à tout ce qui ressemble de près ou de loin à un service public. Le marché, cette institution qui met tout le monde, tout le temps et en tout lieu en concurrence, serait, nous dit-on, la solution à tous nos besoins. Et son autorégulation était bien évidemment assurée. Et pourtant, le marché coûte plus cher. Le marché laisse mourir de malnutrition 9,1 millions de personnes par an. Le marché laisse sous le seuil de pauvreté 20% de la population belge. Le marché laisse partir 221 milliards d'euros vers les paradis fiscaux. C'est ça le projet qui est aujourd'hui défendu par nos dirigeants. Plus de marché, moins de services publics. Plus de marché, moins d'égalité et de bien-être. Alors elle est sans doute là, la voie à suivre, celle de la révolte contre un système qui ne profite plus qu'à une petite minorité, tandis que l'écrasante majorité s'en retrouve maltraitée. Et le fondement de ce système, ce sont les inégalités. Sans elles, il ne peut tenir. De fait, il ne peut y avoir de dominants et de dominés, de supérieurs et de subalternes, de bourreaux et de victimes s'il n'existe plus d'inégalités entre ces personnes. Alors au-delà de l'existence de ces inégalités, il est important qu'elles paraissent comme légitimes. Il faut que celui qui touche un revenu inférieur au seuil de pauvreté pense que c'est pour une raison logique qu'il ne touche que 0,6% du salaire moyen d'un grand patron belge. Il faut qu'il puisse croire que c'est parce qu'il n'aurait pas assez bien étudié à l'école, qu'il se serait mal orienté ou qu'il n'aurait pas été assidu lors de ses devoirs, qu'il ne touche que ce salaire. Or, notre enseignement, il n'est pas accessible à toutes et à tous. Il ne permet pas l'apprentissage et la réussite de chaque jeune, car c'est bel et bien le milieu socio-économique qui détermine en grande partie de la réussite ou de l'échec scolaire. Les enquêtes PISA sont là pour nous le rappeler régulièrement. Notre triste palmarès, c'est que la Belgique est le 3e pays le plus inégalitaire au niveau de l'enseignement. La 3e championne mondiale des inégalités scolaires, c'est nous. Alors notre enseignement supérieur, il est tout autant inégalitaire. Et les barrières économiques, elles y sont légion. que ce soit par une hausse de 21% des demandes de bourse en 6 ans, le fait qu'un étudiant ou une étudiante sur 4 doit jobber pour payer ses études, ou encore la multiplication par 7 en 15 ans du nombre d'étudiants qui dépendent du CPS, le constat est sans appel. La pauvreté, c'est aussi l'affaire des jeunes. La pauvreté, c'est l'affaire de toutes et tous. Et pourtant, cet enseignement qui est si inaccessible, il reste le producteur exclusif d'une certaine légitimité par le diplôme. Car c'est bien le diplôme qui aujourd'hui distribue encore l'accès aux places les plus avantageuses de la société et donc l'accès aux revenus élevés. On comprend alors l'importance de l'enseignement lors de la légitimation et la production de ces inégalités. Alors, lorsque l'on arrive à ce que chacun et chacune s'auto-responsabilise de sa place dans la société, jusqu'à ce que chacun et chacune s'auto-responsabilise des inégalités structurelles qu'il subit, alors on appelle ça la méritocratie. Cette situation moribonde, c'est le résultat de choix politiques. Ce n'est pas naturel, cette situation. Celui de faire de l'école une institution de la reproduction sociale et économique, une machine d'inégalité. Face à ça, nous pouvons faire tous ensemble ici le choix d'une autre politique, où l'école serait productrice d'égalité. Productrice d'égalité en investissant dans la jeunesse. Comme de nombreux services publics, notre enseignement supérieur, victime d'un sous-financement chronique, souffre de ce manque d'ambition du monde politique pour les jeunes. Les effets de ce sous-financement sont multiples. Les dégradations des lieux d'enseignement, les conditions de travail du personnel et de la qualité sont partout visibles. Cette réalité concrète, pour ceux qui ont la chance d'accéder et de rester dans notre système éducatif, va de pair avec un ensemble de mécanismes et de symboliques qui empêchent de nombreux jeunes d'y accéder et qui maximisent l'échec et l'abandon scolaire en reportant vers les familles et vers les étudiants et les étudiantes des missions qui devraient être couvertes par les établissements. Ainsi, pour investir aujourd'hui dans la jeunesse, il est indispensable de refinancer l'enseignement supérieur et surtout d'utiliser ces moyens pour créer des mécanismes destinés aux personnes qui en ont le plus besoin. La justice sociale, ce n'est pas de permettre aux riches de choisir leur parcours de vie tandis que les plus pauvres vont à le subir. La justice sociale, répondre aux inégalités, c'est surtout pouvoir apporter une attention particulière à celles et ceux issus de milieux socio-économiques les plus défavorisés, et ce, par des politiques volontaristes. Alors, pour créer une école productrice d'égalité, c'est aussi permettre à chacun et à chacune d'avoir accès à la même éducation. Aujourd'hui, le soutien qu'offre le mécanisme des bourses d'études ne suffit plus à rencontrer ce droit et son application pose problème. L'obtention du bénéfice de ces allocations, et on a des témoignages qui le disent, c'est pour beaucoup un chemin de croix. Et même quand on obtient cette aide, elle reste insuffisante. Le besoin ici, c'est de mettre en place des politiques qui changent structurellement la manière dont on voit l'éducation, ce service public et la manière d'y accéder. Alors comment faire ? On l'ignore encore trop souvent, mais la Belgique s'est engagée, via le pacte de New York, il y a 52 ans de ça, pour une mise en place progressive de la gratuité de l'enseignement supérieur. Alors si cet objectif est en phase avec une réduction des inégalités, le constat à poser est clair. On n'y est pas, loin de là. Nombreux sont les exemples qui montrent même que cet idéal s'éloigne. Mais il reste à porter cet objectif de gratuité. Nous sommes décidés ici tous ensemble à renverser la tendance pour permettre à chacun et chacune d'accéder à l'enseignement supérieur. Car ce n'est pas l'unique, évidemment, mais c'est l'un des moyens de s'émanciper et de trouver une place égale dans la société. Ici encore, c'est un choix politique à réaliser. Alors c'est pour cette raison et parce que c'est un choix politique et que les politiques, elles se changent, que nous clamerons encore jusqu'à ce que cela rentre dans la tête de certains. L'éducation, c'est un droit, ce n'est pas un privilège. Et alors pour clamer ça, on en a toute la légitimité. Dans une démocratie, le pouvoir doit appartenir au plus grand nombre. Et nous ne sommes pas nous, ici, tous ensemble, coalisés, au-delà de nos domaines particuliers, de nos domaines de militance particuliers, le plus grand nombre. Ne sommes-nous pas la force nécessaire du changement ? Notre combat, il est le plus noble, il est le plus juste, il est le plus légitime. Et nous pouvons d'ores et déjà être fiers d'y participer tous ensemble. Alors si, comme je l'espère, je vous ai convaincu du fait qu'il faut changer l'école, qu'il faut faire d'autres choix politiques, je vous invite à retrouver tous les militants de la FEF qui sont ici présents sur la place d'armes, qui ont des pétitions à vous faire signer pour demander à nos politiques qu'après les élections de mai 2019, on fasse un changement de 180 degrés dans les politiques éducatives et qu'on puisse enfin imposer la gratuité de l'enseignement partout, du fondamental au supérieur. Merci à tous.
j'arrive tout doucement à la fin de nos prises de parole. Simplement vous dire, le thème c'est la violence. On n'en veut plus, on l'a dit dans la manifestation. On a porté et amené des chaussures qui vont d'ailleurs être récupérées pour être distribuées puisque dramatiquement les droits sont tellement décousus qu'il faut que des gens tendent la main pour avoir des chaussures. Mais on se battra pour que ça ne doive plus arriver. On refusera les œuvres de charité. On n'acceptera pas que le service public de la RTBF squatte la journée du 17 octobre pour lancer sa campagne Viva for Life. C'est indécent, c'est honteux, c'est à dénoncer. Dès ce matin, en ouvrant la radio, on entendait la RTBF profiter du travail des autres, profiter des pauvres, profiter de vrais qui combattent pour les politiques structurelles, pour lancer sa politique promotionnelle pour Vivacité à travers Viva for Life. C'est un scandale qu'il faut dénoncer. Une télévision de service public ne peut pas voler cette journée aux gens qui sont concernés. Et donc, sur ce coup de colère, qui est un vrai coup de colère, moi je ne sais pas vous, mais moi quand je l'ai entendu dans la radio ce matin, j'ai eu comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis dit, c'est pas vrai. Ils ne vont pas aller jusque-là. Ils n'ont pas osé faire ça. Eh bien si, ils l'ont fait. On se battra contre ça. C'est pour ça que aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des associations qui se disent, on est bien obligé de récolter de la nourriture aujourd'hui. On est bien obligé de récolter des chaussures aujourd'hui. Rendez-vous compte, on est bien obligé de récolter des serviettes hygiéniques et des Tampax aujourd'hui. Tellement les gens sont mis dans la pauvreté. Mais c'est un scandale, une société qui habitue les gens à ça, mais qui n'habitue pas celui qui tend la main, qui habitue surtout l'ensemble de la population à croire que c'est normal. Il faut le dénoncer. Et donc on se battra pour des droits. Et comme on se battra pour des droits, aujourd'hui dans les stands d'ici, il y a des acteurs qui expliquent qu'est-ce que c'est cette inégalité, comment on peut la réduire. Depuis la fiscalité, ici à ma droite et puis tout autour. Ici devant, des militants et des animateurs du réseau ont créé des blocs pour symboliser les inégalités. Et dessus, il y a des chiffres, il y a de quoi discuter. Vous allez venir, vous allez vous approcher. Il faut comprendre, il faut s'en saisir. Il faut dire, ça suffit. Il y a trop longtemps qu'on attend. C'est intolérable, c'est inacceptable. Alors pour terminer simplement, on sort d'une élection communale. On a battu le pavé aussi pour faire campagne. On a essayé de dire, on va aller leur dire, est-ce que dans toutes les communes wallonnes, alors que tous ceux qui ont quelque chose à voir avec les communes wallonnes aujourd'hui, qui ont un mandat, qui ont été élus, qui ont un peu d'influence, l'obtiennent, le portent, aillent le défendre. Désigner dans le collège une personne qui est en charge la réduction des inégalités pour obliger les chevins qui ont le logement à le réfléchir en fonction de la réduction des inégalités. Celui qui a l'enseignement à prendre des décisions en fonction de la réduction des inégalités. Celui qui a l'accueil extrascolaire, la même chose, etc., etc. C'est possible. Il faut cesser de dire que c'est l'autre niveau de pouvoir qui a à s'en occuper. C'est à tous les endroits qu'on doit s'en occuper et qu'on doit en avoir la préoccupation. Et donc on a fait ça pour les élections communales et on va continuer à le faire. Et puis on part évidemment vers des élections régionales, fédérales, européennes. Aucune raison de s'arrêter. On restera sur le thème de la réduction des inégalités et on va lancer une campagne avec nos militants qui ont enregistrer des questions, on a les premières questions qui arrivent, qu'ils vont aller poser aux organisations associatives, aux grands mouvements d'éducation permanente, aux partis politiques, etc., tout au long de cette campagne.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur, plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout.